BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, il n'y a pas de pont ce week-end et c'est un scandale. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine sur l'économie, la finance, votre argent, vos placements et tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Au sommaire aujourd'hui, les mots de la semaine, ça va être élection britannique, évidemment. La question macro, c'est celle que je me pose, alors j'ai décidé de la poser à des gens intelligents. Où vont atterrir l'inflation et les taux dans le monde d'après? Parce qu'on parle beaucoup de la baisse des taux, savoir si la Fed va baisser dans 3 mois, dans 6 mois. En fait, on s'en fout un peu. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va y avoir encore de l'inflation? Est-ce que les taux d'intérêt vont rester élevés? Le chiffre de la semaine, moins 1,6%. J'ai été surpris, j'avoue, de voir que la confiance des consommateurs était dans l'OCDE, était encore inférieure à l'avant-Covid. Voilà. J'ai découvert ça et donc je voulais vous le faire découvrir aussi. En deuxième partie de l'émission, on a eu encore des nouveaux records sur la bourse. Est-ce qu'il faut toujours continuer? Semaine après semaine, les invités ici nous disent qu'il n'y a pas de souci à faire. Donc on va reposer la question aujourd'hui. La question d'argent, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine et le top 3 des gérants. Et évidemment, ce que vous attendez tous, les actions à acheter ou vendre. Mais pour, vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. À chaque fois qu'elle vient, elle me donne un cours d'économie, ce qui me permet de progresser. Et Jean-Marc Daniel et Emmanuel Blechip disent que j'en ai vraiment besoin. Anna Boatter, heureusement que vous êtes là.
J'ai préparé aussi pour aujourd'hui quelque
chose. Ah ouais, un petit truc comme petit l'histoire truc. De l'inflation qui m'a marqué. Vous êtes directrice de la recherche économique d'Alliance Trade. C'est bien ça?
Oui, c'est bien.
Je ne suis pas trompé sur votre titre, non?
Non, non.
Parce que vous n'êtes pas chef économiste?
Non.
D'accord. C'est le cofondateur d'une magnifique success story de la gestion et un spécialiste des coups de gueule. Sébastien Lavé, d'abord, bonjour. Vous êtes directeur général d'Arbevel. J'ai une question. Est-ce que vous êtes énervé aujourd'hui?
Comme tous les jours.
Ça me fait plaisir alors. Vert, le monde est vert, c'est le message d'un homme qui s'est donné pour mission de sauver la planète. Alain Pitou,
voilà.
Quelle mission vous êtes donnée?
Oui,
c'est complètement dingue. Vous êtes Senior Advisor.
Yes.
ESG.
Yes.
À chaque fois que j'entends ces trois lettres.
Mais tant que vous serez là, Marc, j'aurai du boulot et ça me fait plaisir.
Ah oui, bah là, vous risquez avec moi, vous avez du boulot à vie.
Hein. J'en ai peur.
N'essayez pas de la rattraper, que ce soit dans un marathon ou en économie, vous n'y arriverez pas. Valentine Hénouz, vous êtes directrice de la recherche TOP.
Parfait, Marc.
C'est ça? Je ne suis pas trompé. Chez Amundi Institute. Je fais très attention ici avec les titres. Allez, on y va tout de suite avec les élections britanniques. Quand même incroyable, c'est le 4 juillet. C'est marrant qu'ils aient choisi cette date. Je vous rappelle quand même que c'est la fête nationale aux États-Unis, les élections générales en Grande-Bretagne. Bah, c'est quand même une surprise. 14 ans de gouvernement conservateur, les travaillistes sont aux portes du pouvoir avec une avance de 20 points dans les sondages. Alors vous me direz, les sondages en Grande-Bretagne, on se rappelle les sondages sur le Brexit. Anna Boatter, d'abord, est-ce que c'est une surprise? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que ça va changer et pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe?
Ça fait quelques semaines qu'il y a des blagues en Angleterre sur la date.
Ah
même,
oui
même Sunak fait des blagues lui-même en disant que c'est lui qui décidera de la date. Donc juillet n'était pas complètement exclu. C'est vrai qu'au départ, c'était plutôt octobre. Puisqu'en fait, ils voulaient encore avoir l'opportunité de baisser encore une partie des taxes. Et leur grand truc, c'est de baisser la taxe sur l'assurance, donc une des charges sociales finalement pour les employés. Et puis là, ils se rendent compte qu'en fait, avec l'inflation, les chiffres d'inflation qu'on a eus, probablement qu'il n'y aura pas de baisse de taux tout de suite, peut-être en août, peut-être en novembre. Maintenant, les marchés attendent plutôt novembre. Et donc, ils se disent, plutôt que d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas, plutôt de faire ça, alors on va donner la bonne nouvelle qu'il n'y a plus de récession technique et que l'inflation est en train de se normaliser. Mais il faut quand même rappeler que l'inflation service, elle est encore à 4,7%. Donc,
non mais
c'est
on
moins
a quand
de
même
la normalisation.
On a quand même l'impression qu'ils ont en fait abandonné le truc, quoi, qu'ils n'y croient plus tellement et qu'ils se disent de toute façon à quoi ça sert d'attendre 6 ou 8 mois de
plus. Oui, ils n'auront plus du tout de joker. Mais même s'ils avaient un joker, même si, disons, ils allaient annoncer encore 2 points de baisse de ces taxes, ils n'allaient pas gagner ces 20 points de moins qu'ils ont par rapport au travail.
C'est un grand changement. Imaginons qu'on est dans un scénario où on va peut-être sûrement se planter, les sondages se plantent toujours, mais travailliste gagne, les rapports à l'Europe vont complètement changer, non?
Non, pas forcément. Non,
ah bon?
Non, parce qu'en fait, ils disent qu'ils veulent pas forcément revenir sur l'accord du Brexit, peut-être sur certains points.
Non, mais un
ils se disent même ouverts.
Non.
Quelque part, mais de toute façon, ce gouvernement travailliste s'annonce très plein, dans le sens où ils ne veulent pas révolutionner les choses, du moins
c'est
aujourd'hui.
C'est ce qu'ils disent.
Ouais. C'est pour ça que moi, je suis assez sceptique pour dire qu'un gouvernement, après 14 ans travailliste, va venir, il ne va rien faire sur les taxes, ni que ce soit le taux d'IS, le top tax, qui est aujourd'hui à 45, pas à 50, qu'ils ne vont rien faire sur les marchés financiers, une taxe sur les banques, ou sur les bonus des banquiers. Ils vont forcément revenir sur des mesures que
les conservateurs... Donc il va y avoir des changements en Grande-Bretagne et en Europe.
De toute façon, en Grande-Bretagne, il faut des changements, puisqu'en fait, si vraiment ils veulent être crédibles sur le plan budgétaire, il faut qu'ils dégagent un surplus primaire de 1% du PIB.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'ils vont de toute façon devoir trouver entre 30 et 40 milliards de plus sur les années à venir, puisqu'ils ont un target à 5 ans.
Nous, parce qu'on sait bien faire ça.
Oui, bien sûr. C'est pas trop le fort de la France en ce moment, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions et regarder le passé et Tony Blair, Gordon, pour voir effectivement ce qu'ils ont fait. Et se dire, est-ce que vraiment, s'ils veulent revenir sur les investissements verts à presque 30 milliards de livres, parce que maintenant ils ont dit, finalement on n'a pas d'argent, on va faire que 7, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Est-ce que vraiment ils vont construire tout le social housing qu'ils disent? Est-ce que vraiment ils veulent investir dans la défense 2,5% du PIB?
Ce que nous conseille Alain Pitou, c'est de prendre tous les budgets de transition écologique et de les mettre dans la
pile. Et puis 2,5% du PIB, c'est vraiment pas comme ça qu'on va. C'est pas avec l'évasion fiscale qu'ils disent qu'ils vont réduire, qu'ils vont financer.
Valentine Hennouz, vous qui n'êtes jamais étonné, est-ce que vous avez été étonné là? Vous y attendiez?
Oui, ça, c'est l'idée, que c'est que la situation va pas s'améliorer au cours prochaines semaines, et que quitte aujourd'hui à agir maintenant, ils vont bénéficier, ils vont pouvoir mettre en avant la baisse de l'inflation et le fait que l'économie depuis le début de l'année soit moins mauvaise qu'attendue. Mais il faut quand même mettre en avant aujourd'hui le très très fort mécontentement des ménages britanniques par rapport au regard de ce gouvernement. Et je pense que ce qui a vraiment changé la donne ces dernières années, c'est le recul important du pouvoir d'achat des ménages britanniques, et surtout ils ont été très très pénalisés par la hausse de taux et la crise du logement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les Anglais, sur la partie immobilière, sont endettés, la majorité des Anglais sont endettés à taux fixe, mais sur des maturités courtes, 2 ans, 5 ans.
Donc ils sont obligés de renégocier à des taux.
Exactement.
Plus élevés.
Et aujourd'hui, si on veut regarder par exemple le taux 2 ans, il était à 2% avant le Covid, il est à 5% aujourd'hui. Ce qui fait que pour une vaste majorité de ménages britanniques, la charge, leur coût de leurs échéances immobilières ont augmenté de presque de 40%, ce qui est énorme. Et on estime que 2 adultes anglais sur 5 a aujourd'hui des difficultés à payer son loyer ou à rembourser son crédit. Donc on a vraiment aujourd'hui une partie...
Si on vous écoute, c'est cuit quoi, pour les conservateurs quand même.
Parce ça va être très compliqué. Et la porte est ouverte aujourd'hui au gouvernement, est ouverte au parti travailliste. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le marché est très très peu inquiet et a d'ailleurs très très peu réagi à cette annonce.
Il n'y a eu aucune réaction.
C'est
très peu de réaction.
Ils sont complaisants.
C'était très peu.
J'ai rarement vu ça.
Le marché a absolument pas réagi, parce que depuis, ils ont adopté une posture quand même très très rassurante ces derniers mois. Après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais la posture qu'ils ont adoptée ces dernières semaines a été très très rassurante. Est-ce que le marché scrute de très près? C'est les politiques budgétaires. Est-ce qu'ils vont ou pas avoir un dérapage budgétaire? Est-ce que la mini crise budgétaire qu'on avait eue avec le gouvernement Truss va se répéter ou pas? Et donc pour l'instant, le marché est vraiment très confortable sur cette histoire.
Ah,
quelque chose, je pense, qui est passé entre les lignes quand même. Ils veulent mettre en place un taux fixe pour des prêts immobiliers à 25 ans.
Ouais.
Avec un minimum d'apport.
Bien,
c'est incroyable de faire ça. Et que personne réagit, puisqu'ils vont imposer quelque chose aux banques qui n'est pas du tout la façon de faire aujourd'hui. Et puis,
c'est ce qu'on a en France, hein, on le rappelle aux gens qui nous écoutent.
Oui, mais fixe dans le sens où ce n'est pas en fonction du profil de crédit de l'emprunteur. C'est vraiment
c'est
fixe pour n'importe qui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire mal.
Deux mots très rapides.
Oui, allez-y, Alain.
Le fait qu'ils aient tenu 14 ans, et c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est-à-dire qu'en fait, la succession de Premier ministre anglais était quand même assez désastreuse, avec des résultats, je ne vais pas revenir dessus, qui sont très mauvais. Le problème que vont avoir les travaillistes, à mon sens, c'est que si on regarde comment vont se passer les élections, a priori, ce que j'ai compris, alors après, avec les modulo, les problématiques de sondage, c'est qu'ils risquent d'avoir assez peu de marge de manœuvre, en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que le marché n'a pas réagi, parce qu'en fait, ils n'auront pratiquement pas de marge de manœuvre. Pas de marge de manœuvre budgétaire, pas de marge de manœuvre politique pour faire passer leurs mesures.
Pourquoi ?
Il y a plusieurs parties. En fait, finalement, il y a quand même les travaillistes, les conservateurs, mais il y a des endroits où
ils vont avoir une coalition.
Enfin, c'est pas. Et en tout cas, ils auraient probablement pas la majorité forte. Un peu aussi, ce qui se passerait aussi, c'est que travaillistes, il y a tout. Hein. Ils ont au sein des travaillistes, ils ont pratiquement LFI et pratiquement un parti de gauche très modéré. Donc, ça va rendre assez difficile de faire passer des mesures fortes. Donc, budgétairement, ils sont assez coincés.
Donc, statu quo. Donc, c'est pour ça que.
Ouais, tout à l'heure avec ça, mais le seul endroit où on est quand même en lien avec le Royaume-Uni, c'est la défense. Et quelque part, heureusement pour eux qu'il y a eu la crise ukrainienne, ça les a quand même raccrochés à l'Europe sur ce plan-là. C'est déjà ça.
Sébastien, c'est un sujet qui vous intéresse ou pas du tout ?
Structurellement, oui, mais heureusement, il n'y a plus Corbyn déjà. Donc peut-être que ça aurait été plus inquiétant. C'était Corbyn, toujours le leader des travaillistes, mais ce n'est plus le cas.
Donc,
comme disait Alain, les travaillistes, ça va être Corbyn à Tony Blair. Et Gordon, à l'époque, a été un très bon ministre.
Allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. Je voudrais qu'on prenne un peu de temps là-dessus. Où vont atterrir l'inflation et les taux dans le monde d'après ? En fait, c'est intéressant parce que plus je lis d'articles que j'essaye de comprendre, et plus je m'aperçois qu'il y a quand même deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il y aura toujours de l'inflation et que les taux resteront élevés, pour des raisons qui sont maintenant devenues structurelles et non plus conjoncturelles, et ceux qui pensent qu'on va retourner à la déflation, et peut-être, pourquoi pas, au taux négatif. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça, hein, quand on lit aujourd'hui toutes les prévisions et autres. Valentine, vous êtes dans quel camp ? D'abord, est-ce que c'est bien ça ? Et vous êtes dans quel camp ?
La réponse n'est pas aussi...
Non, mais moi, les subtilités, c'est pas mon fort.
Moi, je pense qu'à l'horizon d'un an, deux ans, on est revenu à une inflation à 2%. Dans les économies développées. Après, je pense que ce qu'on sous-estime, c'est peut-être le coût en termes de croissance, que ça va nous coûter plus cher en termes de croissance, et que c'est peut-être cet atterrissage immaculé que les marchés attendent aujourd'hui. Je suis assez sceptique par rapport à ça. Parce que si aujourd'hui, on voit qu'on a quand même, pour des raisons diverses et variées, une inflation qui résiste, c'est une inflation aujourd'hui qui est essentiellement sur les services. Il faut quand même remettre le débat. Il faut quand même rappeler qu'en 2022, on était sur une inflation au-dessus de 10%. Aujourd'hui, en Europe, on est sur une inflation qui tourne autour de 2,4. Donc, elle a déjà considérablement baissé, cette inflation, grâce à la baisse du prix de l'énergie. Et aussi, on n'a plus de pénurie de produits qu'on avait pendant le Covid.
On n'a plus de coulée d'étranglement.
Et post-Covid. Maintenant, l'inflation qu'on a, c'est une inflation sur les services, où on a, si on regarde sur les 6 derniers mois en zone euro, on a une inflation sur les services qui tourne autour de 4%. Donc, c'est aujourd'hui notre attention. Pourquoi cette inflation, elle est aussi forte ? Je dirais... pour quatre bonnes raisons. La première, déjà, c'est qu'on a maintenu des politiques budgétaires expansionnistes, et elles le sont toujours aux États-Unis. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de... les financements via les marchés restent extrêmement accommodants. Si on regarde les volumes sur les marchés obligataires depuis le début de l'année, ils sont records, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Le crédit est peut-être un peu plus cher, mais l'accès au crédit reste très 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 bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est anormal quand on a une hausse des taux aussi abrupte. Après, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une décennie de taux bas, où les entreprises ont fait baisser le coût moyen de leur dette. Les ménages ont également fait baisser le coût moyen de leur dette. Les ménages ont également bénéficié, pour les plus aisés, d'un effet richesse positif.
Avec la hausse des taux sur les placements.
Avec la hausse des taux sur les placements, avec la baisse des taux. Donc cette hausse des taux aujourd'hui, elle a exacerbé les inégalités qui ont été créées par une décennie de taux bas. Et le dernier point, et ça c'est vraiment ce qui est surveillé très près par les banques centrales aujourd'hui.
C'est le quatrième. Allez-y.
C'est les pénuries sur les marchés du travail à cause du vieillissement de la population. Donc on a aujourd'hui une inflation qui reste très forte, et des banques centrales, où je pense, vont devoir être extrêmement prudentes. Mais il faut garder à l'esprit que des taux plus hauts plus longtemps auront à un moment un impact sur l'économie.
Dans le monde d'après, c'est-à-dire on va passer les baisses des taux, on se pose la question de savoir quand la Fed va baisser ses taux, on s'en fout un peu, on verra. Mais dans un an et demi, deux ans, on va être dans un monde à quoi ? Inflation basse et...
Moi, je pense que la question se pose au-delà des deux ans, parce qu'on aura encore des effets de base positifs pour garder une inflation autour de 2%.
Notamment dans les services, comme dit...
Oui, et puis des mini-déflations sur les biens. L'énergie, si on n'a pas d'autres chocs en plus géopolitiques, ça ne va pas être un contributeur aussi fort à la hausse. Mais je pense qu'après, il faut se poser la question sur les facteurs structurels. Ouais, la démographie, le changement climatique, c'est vraiment... on est sérieux sur le changement climatique, ça rajouterait encore un point. Si on n'arrive pas à trouver les 12 millions d'Européens qui vont nous manquer sur le marché actif d'ici 2030 et qu'on ne va pas combler ça par des réformes des retraites ou par de l'IA ou par de l'immigration, le coût du travail sera structurellement plus élevé et la productivité de toute
45%
façon...
45% des jobs peuvent être remplacés par l'IA d'ici 2035.
Oui, mais je suis moins convaincue que ça va se passer en Europe par rapport aux États-Unis. C'est ça le problème, parce que l'Europe va tacler ça par de la réglementation et du coup, on va un petit peu tuer l'avance qu'on pourrait avoir. Parce que l'IA peut remplacer tous ces 12 millions de... Parce que c'est à peu près 2% de productivité par an. Mais à 5%, on y croit? Non, on n'y croit pas. On connaît l'Europe. Si aujourd'hui, on a un problème de productivité en Europe, c'est parce qu'on n'a pas fait le saut technologique qu'on aurait dû faire.
Donc vous nous dites quoi? Vous nous dites que dans 5 ans, on sera à des taux d'intérêt. Évidemment, il peut se passer plein de choses.
Si le taux terminal est plutôt autour de 3%, oui, on va rester probablement à 3% aux États-Unis et en Europe à 2,5, 2, quelque chose comme ça.
Donc vous ne voyez pas du tout de retour au taux à la déflation et au taux
Si on n'a pas une crise financière mondiale tirée par je ne sais pas quel choc, non. Mais aujourd'hui, de toute façon, je pense que ce saut d'inflation, il est conjoncturel. Vous vous rappelez la dernière fois quand on a parlé du fait que si on baisse des taux au mois de mars ou qu'on continue à laisser croire qu'on va baisser les taux plus tôt que plus tard, on va rajouter 0,5 points à l'inflation grâce à la hausse du marché actions. C'est ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui, on a tous révisé nos prévisions d'inflation aux États-Unis à 3. Et en fait, 54%, parce que c'est ça mon nouveau calcul, en fait, le calcul d'un collègue, 54% de la contribution aujourd'hui de cette hausse vient de l'assouplissement des conditions monétaires et financières, qui s'est assoupli juste parce qu'on a donné l'impression qu'on est prêt à baisser les taux aux États-Unis. Et 20% restant, c'est plutôt de la politique budgétaire, et 20%, c'est du marché de travail. L'offre, elle contribue négativement aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, sans baisser les taux, on a communiqué dans un sens et maintenant, on n'est pas prêt à y aller parce qu'on ne se dépêche pas, parce que l'économie croît à 2,5%, qu'on a peur que l'inflation accélère de nouveau. Et donc, finalement, est-ce que c'est une erreur de communication ou pas? Maintenant, on parle même de hausse des taux dans les minutes de la Fed. Donc,
Sébastien, quand vous vous projetez, hein, parce que, évidemment, votre métier, c'est aussi de vous projeter dans les résultats des entreprises, dans leur évolution, mais aussi sur l'environnement macroéconomique. Vous voyez un environnement qui est un environnement de taux bas?
Non, mais là, on est face à des changements structurels importants. La démographie en fait partie. Une des raisons pour laquelle les US ont une croissance supérieure à ce qui était attendu, c'est qu'en réalité, il y a eu plus d'immigration que ce qu'on a raconté. Il y a eu des entrées au travail aux États-Unis liées à l'immigration.
Oui.
Et c'est un des enjeux de Trump. C'est-à-dire que si vraiment il coupe, comme il a dit qu'il le ferait, mais il ne le fera pas de toute façon, ça sera très inflationniste. Au même titre, et donc la démographie baisse. Ça on sait,
elle chute
et du coup dans la structure du travail va changer aussi, parce qu'on parle de l'IA, super, mais l'IA va remplacer des jobs, ok, mais il y a plein de boulots de service où les gens aujourd'hui, post-Covid, ne veulent pas les faire non plus. Donc, on l'a vu aux US où le SMIC a profondément augmenté. T'as plein de boulots en Europe où les accords et les boîtes de services n'arrivent pas à recruter. Donc c'est juste que l'inflation, elle va être centrée sur certains points. Idem, on parlait des matières premières et de la transition énergétique et climat. Ça, c'est structurellement inflationniste aussi. Vous prenez le cuivre. Le cuivre est aujourd'hui une ressource qui devient rare. Il va y avoir un shortage en 2024 de cuivre. Donc vous allez avoir des éléments très précis où là, il y aura juste un choc d'offre et de demande.
Vous pensez plutôt qu'on est parti pour un monde où l'inflation structurelle sera plus élevée?
Par endroit. Bon. Moi, je pense que dans un tronc... Le problème des marchés financiers, c'est qu'on mélange tout. Jeudi, les PMI étaient un peu plus élevés. Donc, automatiquement, via les algos, tous les taux ont commencé à monter. Toutes les valeurs liées aux taux ont fortement baissé. Mais je pense que le problème, c'est qu'on est une tempête dans un verre d'eau permanent. C'est-à-dire que tous les trois jours, il y a des chiffres et on a le nez dedans.
C'est pour ça que j'essaye de me projeter
Si on se projette et qu'on ne s'éclate pas en se projetant, non, l'idée, globalement, c'est qu'il va y avoir des îlots, à mon avis, d'inflation forte structurelle.
Vous êtes responsable en partie donc de cette inflation avec la transition écologique.
Je suis tout à fait conscient, mais il n'y a pas que moi qui en suis responsable. On fait un gros changement. On est passé d'une économie d'abondance à une économie où on va gérer des pénuries ponctuelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un choc géopolitique mondial qui est en train de se mettre en place où on va gérer des pénuries sans arrêt. Donc ça, c'est un vrai problème également pour les chaînes de production. Imaginez qu'il se passe quelque chose à Taïwan. On a des pans entiers de l'économie qui sont obligés de s'arrêter. Donc c'est quand même extrêmement gênant. On va gérer ça. On va gérer également le problème des matières premières liées à la transition énergétique. Et également, ça c'est la transition énergétique, on va dire c'est quand même parce que le bon côté de la transition, mais il y a aussi le mauvais côté, c'est le réchauffement climatique. On n'en parle pas en Europe en ce moment parce qu'il pleut, donc tout le monde se dit c'est pas pour tout de suite. Mais vous regardez ce qui se passe en Asie, vous regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, en Afrique du Nord et dans pas mal de pays d'Amérique latine, c'est une catastrophe. Donc on va gérer comme ça des pénuries ponctuelles avec de l'inflation, et on confond tout, on mélange inflation, hausse des prix. Et le problème des banques centrales, si leur seule mission, ça reprend votre débat de ce matin, si leur seule mission c'est l'inflation, elles peuvent pas lutter contre cette inflation-là. Parce que qu'est-ce qu'elles peuvent faire sur le cuivre, qu'est-ce qu'elles peuvent faire sur le cacao? Rien du tout. Et donc, si elles agissent pour calmer l'économie, alors que c'est pas ce qu'il faut faire dans des moments comme ça, et c'est pas ce qu'il faut faire en ce moment, elles vont carrément casser l'économie. Donc, on est dans une situation qui va être, je pense, et je rejoins ce que disait Sébastien, c'est que il va y avoir des hausses ponctuelles à cause de pénuries, à cause de changements quelconques, qui font que pour regarder les boîtes, ça change également. C'est-à-dire que le sujet de résilience, et c'est la problématique de l'ESG, hein, ça vous fait toujours sourire, pas aujourd'hui, mais parce que là, ça me rend triste. Mais
il y a des jours, ça me fait sourire.
Oui, le problème de la résilience, qui est typiquement une réflexion ESG, devient clé pour les entreprises. C'est-à-dire que à la limite, c'est pas tellement de savoir si elles vont faire des résultats un peu plus ou un peu meilleurs ou un peu moins bons que ce qu'elles attendaient. Mais c'est la capacité à garder capacité aussi à préserver leur prix et leur marge. Donc c'est ça le sujet, je pense.
Je trouve qu'il y a un fait qu'on prend pour acquis, c'est un débat qui me passionne, c'est la transition démographique, de dire que c'est inflationniste. C'est-à-dire que moi, je n'y crois pas du tout.
Pas forcément, et je pense qu'à court terme, ce qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est...
Le Japon est le contre-exemple parfait.
Exactement. Ce qu'on voit à court terme, c'est qu'on a des pénuries sur le marché du travail. Après, pour moi, il y a deux facteurs qui sont déterminants. C'est l'évolution de la productivité avec l'IA et aussi avec tous les business models qui vont s'adapter. Hein. On voit, par exemple, il y aura peut-être moins de restaurants servis à table et on aura peut-être plus de ventes à emporter. Il y aura les business models, on voit, qui vont vraiment s'adapter.
C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Sébastien.
Et la démographie, ça veut dire aussi population qui vieillit, c'est moins de demande. Et on voit que dans certaines zones géographiques, on paye pour acheter une maison.
Je
caricature, mais c'est vrai.
Mais c'est ça qui est étonnant.
C'est pas aussi évident.
Anna, on a quand même un laboratoire de la démographie. On a le Japon, quoi, depuis les années 90. On voit bien qu'il n'y a pas d'inflation dans un monde qui vieillit, avec plus de natalité et avec une population qui vieillit. Je ne comprends pas le sujet, en fait. Et pourtant, au Japon, on est en plein emploi depuis 15 ans ou 20 ans. Et les salaires d'augmenter qu'il y a quelques années.
Il ne faut pas oublier qu'on est en train de réduire encore le temps de travail des Européens qui sont aujourd'hui actifs. D'accord ? En Allemagne, on va travailler encore moins dans les quelques années à venir. De toute façon, l'Europe, c'est un des continents qui travaille le moins. Donc, il faut encore faire accepter aux Européens que non seulement ils vont partir à la retraite après les 70 ans, et qu'en plus, ils vont travailler plus. Et de toute façon, aujourd'hui, en Europe, il y a des lois de travail qui sont vraiment différentes en fonction du pays. Donc,
vous dites, c'est un problème.
Je pense que déjà, socialement, c'est pas du tout accepté. Aujourd'hui, en Europe, on sait que oui, l'âge moyen est probablement au-dessus de 40 ans. On sait que la natalité elle est deux fois moindre qu'aux États-Unis, et qu'en plus, on n'est pas attractif pour les immigrants, parce qu'en fait, de toute façon, l'Europe veut être comme une forteresse. Elle veut sélectionner les gens qu'elle veut recevoir. Et de toute façon, elle les intègre mal. Parce que si on regarde au même horizon, quand j'ai donné les 12 millions de moins d'Européens, en fait, aux États-Unis, on en a 3 millions de plus. Parce qu'ils arrivent à créer, en plus de la croissance avec ces immigrés, il y a un tiers du PIB américain qui est tiré par l'immigration. On n'est même pas à un cinquième en Europe. Donc, je pense vraiment qu'il faut se poser. On aura de plus en plus de vieux qui vont vivre longtemps et qui ne vont pas travailler. Et ça va être un problème, ouais, parce que ma génération, par exemple, on n'aura pas, à mon avis, les épaules pour porter, parce qu'on n'a pas accumulé autant de richesses.
Vous voulez pas payer ma retraite,
que les autres.
Vous êtes en train de me dire, là.
Non,
ce que vous êtes en train de me dire.
Je serai pas assez riche, les millennials.
C'est que je vais être un boulet pour vous, quoi. C'est ça?
Ben non, mais j'espère qu'on pourra partager la richesse, parce que moi, j'en aurai pas assez, c'est sûr.
Sébastien, vous qui êtes un pro de la tech, fou de la tech, la démographie, ça va être compensé par la tech. La robotique, tout ça, même dans les services.
Mais oui, mais à long terme, on est tous morts. Mais...
Non, mais c'est à court terme, c'est en train de se produire.
Mais il faut pas rêver. La principale résistance à la technologie, c'est la résistance au changement. Et c'est le temps. Ouais. L'IA, c'est super, mais ça prend un petit peu de temps quand même pour être accepté dans la consommation, dans plein de choses. Ça va changer dans les grosses boîtes. Effectivement, il y aura de la productivité.
Ça va une vitesse.
Mais en même temps, comme disait madame, la productivité baisse, notamment en Europe. Les gens travaillent.
En Europe, mais aux États-Unis,
oui, elle progresse. Ah bon, après, tu as un différentiel de PIB depuis 10 ans. Oui. Il est monstrueux. Monstrueux. Il y a ça. Mais...
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse avec les nouveaux records et se demander si c'est stop ou encore. On va passer du placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre, à tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie d'émission avec Valentine et nous d'Amundi Institute avec notre spécialiste ESG Alain Pitou, avec Sébastien Lalevé d'Arbevel et Anna Boata d'Alliance Trade. Juste un petit mot, je voudrais qu'on parle quand même du chiffre. On aurait dû le faire en première partie, on n'a pas eu le temps, tant mieux. Le chiffre de la semaine, moins 1,6%, la confiance des ménages dans l'OCDE. J'ai été surpris, Anna Boata, de voir qu'elle était inférieure à l'avant-Covid. Bon, évidemment, encore, c'est encore pire pour l'Europe. On n'a pas compensé encore l'impact du Covid, Anna ?
Bon, en termes de confiance, non. En termes de croissance, oui.
Ah, en termes de croissance, oui, c'est bon ?
Oui, oui, oui. On est à peu près 2% au-dessus pour le PIB. D'accord. À peu près pareil pour la consommation des ménages. Bon, l'investissement, lui, il n'a pas trop repris. Les exports ont repris. Mais si on compare ça aux États-Unis, la consommation des ménages était à deux chiffres aux États-Unis. Donc ça veut dire que le consommateur, surtout européen, est plus inquiet que celui américain. Même si, en fait, on a fait du chômage partiel à n'en pas finir, qu'on le paye aujourd'hui avec une productivité en baisse, on n'a pas laissé les gens
avec
dans la rue.
Avec de la dette.
Et le taux d'épargne n'arrête pas d'augmenter en Europe. Donc oui, c'est un peu... à mon avis, l'incertitude vient, ou ce manque de confiance vient du fait que on n'arrête pas d'avoir des guerres pas loin de chez nous, que la facture d'électricité... tout ce qui est utilities n'arrête pas d'augmenter et qu'en plus on nous parle toujours de réforme de retraite. Donc il y a des facteurs à mon avis qui font que le consommateur
anxiogène.
Européen il est un peu anxiogène. Il peut avoir un certain attentisme.
Après, tous les mecs qui nous disent la planète elle va sauter, tout ça c'est hyper anxiogène. La confiance des ménages elle est pourrie, on n'a plus de croissance et du coup on n'a pas de quoi payer la transition écologique.
Mais ça sert à rien. Ça devrait s'améliorer, Marc.
Font peur, Marc.
C'est vraiment n'importe quoi.
Ça devrait s'améliorer.
Oui, vous êtes surprise ou non la confiance des ménages qui sont inférieurs de 2019, faut le dire.
Non, je suis pas surprise. Si on regarde depuis le début de l'année, on a une croissance économique qui est un peu mieux que ce à quoi on s'attendait, mais on reste sur une croissance qui reste quand même très faible en zone euro.
Tout au CDE, hein.
Oui, mais on a quand même une croissance qui reste relativement faible. Et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est le décrochage qui s'est accéléré avec les US en termes de croissance, en termes d'investissement et en termes de productivité.
C'est récurrent, ça. On revient toujours.
Oui, mais c'est carrément accéléré.
C'est horrible.
Et pour moi, le point à sortir, on parle pas seulement du Covid, mais il faut aussi parler de la crise de l'énergie, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup plus sensible qu'avant au risque géopolitique. Donc, les ménages européens, ils ont bien raison d'être un peu plus inquiets qu'ils n'étaient avant le Covid.
Mais ils ont bien raison d'être inquiets.
Ils ont raison, oui. On est quand même dans une situation, je trouve, aujourd'hui, qui est moins facile.
La différence aujourd'hui entre un Européen moyen et un Américain moyen de richesse, c'est quand même... l'écart, il est de 35%. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment aux États-Unis, mais oui, je pense qu'en tant qu'Européen, ça fait mal.
Vous savez que le 30% du dernier concert de Taylor Swift, c'est les Américains?
En Europe.
À Paris, oui, parce que c'était beaucoup moins cher pour eux de venir voir le concert ici. Il y a quasiment un rapport de 1 à 10 sur les places. Parce que là-bas, c'est l'offre et la demande, et les gens peuvent payer. Et ici, tous ceux qui sont allés en vacances aux États-Unis, et notamment à New York, ils se rendent compte que c'est.
Aller au Japon, le yen est très bas. Allez, on se retrouve. On vous donne aussi des petits conseils de voyage, c'est sympa. On va dire, c'est votre voyage, c'est la nouvelle émission. Allez, on passe tout de suite au marché. Un nouveau record encore cette semaine sur les indices boursiers, et puis ça s'est un peu calmé, sans se calmer vraiment. Perspective de baisse des taux, excellent résultat des entreprises. Bon, quand même, juste, on va parler, le CAC, 7,5% de hausse, S&P 10%, Nasdaq 11% de hausse, Eurostock 11%, le Nikkei 15%, Shanghai 4,5%. Quand vous voyez un résultat comme Nvidia, qui, juste sur l'annonce de ses résultats trimestriels, donc qui était ses 262% de hausse de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent, quand vous voyez que ça crée... Vous qui vous battez sur des petites valeurs à quelques centaines de millions d'euros, et que ça crée 140 milliards en quelques minutes de
crédit. Plus que ça. Mais après, c'est notre travail, c'est le relatif et le pourcent, pas l'absolu. Mais ce qui est important avec Nvidia, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les perspectives de résultats 2025 par rapport à il y a un an ont été multipliées par 5.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un an, tu pensais que les résultats, l'IPS d'NVIDIA de tête, c'était 6 dollars par titre. Aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir, ça doit être 26 ou 28. Donc, c'est juste que la hausse du cours de NVIDIA, c'est non,
mais
pas une buse.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour votre métier de gérant, il n'y a pas un moment où vous vous dites, bon, je veux dire, il y a des NVIDIA, à la limite, il faut faire que ça, quoi. Dans un sens ou dans l'autre.
Factuellement, vous montrez les indices, en réalité, prenez le SN, je crois que ça fait 100% NVIDIA cette année.
Ouais.
Vu le poids dans les indices, regardez tous les fonds Global Tech, ils ont tous du NVIDIA, du truc, du machin. En réalité, vous faites la perf du S&P ex GAFA, on va me dire, tiens, si t'enlèves ce qui monte, il reste ce qui baisse. Mais en réalité, c'est un petit peu ça aussi. Donc, encore une fois, je le répète à chaque fois, les indices sont quelque chose qui sont un peu en trompe-l'œil aujourd'hui, parce que dans l'histoire, ils n'ont jamais été aussi concentrés. C'est-à-dire qu'en fait, très peu de sociétés ont tiré les indices de façon extraordinaire.
Mais est-ce que c'est anormal ? Parce que finalement...
En fait, c'est aujourd'hui accentué par la gestion passive. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'en fait...
Mais ça va tourner,
ce qu'on a
mais...
dit plusieurs fois, winner take all.
Non, mais
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir dans l'intelligence artificielle, il faut 200 milliards. Une start-up, elle ne va pas mettre 200 milliards
C'est pas ça. Dans toute révolution technologique, il y a des paliers. Là, on est dans le moment infrastructure. Et le moment infrastructure, la meilleure boîte pour l'infra aujourd'hui dans le monde, s'il n'y a pas photo, c'est NVIDIA. Après, dans 18 mois... On va passer à autre chose parce que aujourd'hui, regardez bien le consensus sur NVIDIA post-publication, il a bougé, mais pas tant que ça. Tu es à 80% de croissance cette année, tu descends à 20% l'année prochaine. Après, c'est tellement gros, et à un moment, les AMD, les machins, les trucs, et puis dans l'IA, la capacité de calcul, il y a la puce qui est fondamentale, mais après, tu as le soft, et puis après, il va y avoir les gens qui vont se dire. Moi, j'ai pas forcément besoin de la Ferrari. Je peux me déplacer en Audi. Et après, t'as ceux qui disent, moi, je peux me déplacer en Peugeot, en Stellantis. Et ça sera plus Nvidia. Donc, il y a d'autres gens qui vont arriver. C'est-à-dire que la croissance Nvidia, on raconte ce qu'on veut. Dans 2 ou 3 ans, elle va baisser.
Non, je comprends.
Est-ce que ça justifie faire des multiples?
Mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement il faut pas surfer sur Nvidia et puis dans 18 mois surfer sur.
C'est ça la bourse. Hein.
Ouais.
La bourse. Regardez, il y a 10 ans, la star de la bourse, c'était Iliad. Mmh. Alain Mann était tellement énervé par son cours de bourse qu'il est sorti. Mmh. Donc, la bourse, c'est ça. C'est regardez le Novo Nordisk, les trucs sur l'obésité. Si tu n'en avais pas, t'étais mal barré. Voilà, notre métier, effectivement, la différence...
D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que je ne sais pas qui a sorti une étude sur toutes les valeurs Covid... Et qui se sont fait complètement démonter, qui sont revenus pour la plupart.
Aujourd'hui, elles sont moins chères. Voilà. Je vous parle pas en multiples.
Non, non.
Je vous parle en capitalisation, en valeur, que 2019. Alors qu'entre-temps, elles ont aujourd'hui un niveau d'activité qui est sans commune mesure avec ce qu'on imaginait en 2019. Mais là, vous vous trouvez dans le débat éternel des gens qui sont comme moi. Regarde les fondamentaux des boîtes. Et les valorisations versus les marchés qui sont très momentum. Donc on achète ce qui brille quand ça brille et après on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a ce débat-là qui est éternel. Mais s'il y a des gens qui ont compris quelque chose, c'est les gens du private equity. On a un fonds de développement durable cher à mon ami Alain. Ce fonds-là, depuis le début de l'année, a eu 4 OPA. Voilà, c'est tout. C'est que tout le monde s'en fout. T'as de la chance, encore invité alors que tu fais de l'ESG et du vert, mais tout le monde s'en fout de l'ESG, tout le monde s'en fout du climat, parce que ça a souffert de la hausse des taux, c'était plus à la mode. Sauf que, y a des gens qui savent compter, qui disent, mais à ce prix-là, c'est quand même complètement débile, donc moi je vais y aller.
Voilà. Alain, la bourse, ça vous inspire quoi ?
Alors la bourse, c'est vraiment super, c'est ce que vous avez décrit en fait, c'est-à-dire beaucoup de liquidités, des résultats qui sont pas mauvais. Des gérants investis, une volatilité très basse.
C'est un alignement de planète.
Les small mid-cap qui sont en train de rattraper leur retard. Ouais. Bah, ça va pas vite, mais enfin bon, elles viennent de loin, puis elles ont quand même des gens comme vous qui arrêtent pas de tirer dessus. Donc tout est bien orienté pour que ça soit de la hausse dans les mois qui viennent, mais moi je pense que ça va baisser, justement à contrario par rapport à ça, parce que je pense que le marché il a besoin de souffler. Et je dis pas que dans 3 ans le marché sera pas plus haut, mais je pense que là on est arrivé à un moment donné.
Pourquoi
en fait c'est une conviction, c'est. c'est un peu contrariant. Je pense
parce que
c'est
les économistes nous disent bon, il va y avoir de l'inflation.
Oui, mais eux, ils raisonnent à long terme. Enfin, c'est pas. Moi, je pense que d'ici la fin de l'été, c'est complètement dissymétrique. J'étais venu le 19 avril, j'ai regardé ce que j'avais dit à ce moment-là, que j'étais plutôt baissier, et le CAC était au même niveau. Ouais. Donc, c'est pour relativiser ce que vous dites sur le fait que les marchés ont beaucoup monté. Ils ont beaucoup monté par 2-3 valeurs.
Ouais.
Donc, ça, je pense que on va finir l'été.
Donc, vous êtes prudent, c'est ça.
L'été, ouais, je pense que l'été, on va être un peu plus bas que les niveaux actuels, même peut-être nettement plus bas si les choses sont.
Mais pour quelle raison ? C'est
ça que je pense qu'en fait, les investisseurs ne sont pas couverts. C'est-à-dire qu'en fait,
ils devraient se couvrir. C'est ça que j'essaye de comprendre.
Bah, ils devraient se couvrir parce qu'il y a quand même des risques dans le marché, toujours. Enfin, c'est un marché. Regardez, par exemple, on parle de Nvidia.
Mais d'un autre côté, vous êtes en train de nous dire au début, vous nous dites, bah, tout est aligné. On a la baisse des taux, on a les résultats des entreprises.
Oui, alors ça, c'est. Alors, encore une fois, c'est vision un peu longue, mais à court terme, aujourd'hui, les gérants n'ont plus de liquidité pour aller chercher un marché qui rebaisserait très nettement. Et si la volatilité se mettait à un peu monter, alors je ne dis pas qu'elle va exploser à 40, mais on est sur des niveaux historiquement bas, ça veut bien dire que les investisseurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le thème « je suis confiant, je ne suis pas confiant », mais ils ne sont pas couverts. C'est-à-dire qu'en fait, au moindre problème, il peut vraiment se passer un enchevêtrement de mauvaises nouvelles sur les marchés.
Est-ce qu'une directrice de la recherche économique regarde la bourse ?
Oui, on regarde, on fait même des estimations.
Ah oui,
il y a une partie de l'équipe d'Allianz qui justement aide qui aide à gérer le portefeuille Allianz, puisqu'en fait on réfléchit aujourd'hui en scénario alternatif.
Alors,
Là, pour l'instant, on est plutôt confiant pour dire qu'on va finir sur une performance positive du marché d'actions sur l'année, mais pas à deux chiffres. Mais bon, l'année dernière,
pas
par
deux
exemple,
chiffres, ça veut dire que c'est...
ça veut dire qu'on
ça se corrigera à un moment donné. Mais on a quand même été surpris l'année dernière. Donc l'année dernière, on avait une performance plus faible que ce qu'on a eu à la fin de l'année. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attelle encore aux attentes de marché par rapport aux banques centrales. Puisque si, par exemple, la BCE ne va pas faire 3-4 baisses de taux...
Vous pensez que ça aura un impact ?
À court terme, oui.
Si on a un cycle de baisse de taux qui commence, bon, s'ils en font deux et qu'ils en font deux l'année prochaine, on s'en fout un peu.
Non, mais si on a un euro-dollar à 1 ou en dessous, je pense que ça change un petit peu.
C'est ça le problème des banques centrales. C'est pas tellement. Ce qui se passe
c'est
en ce moment, c'est qu'elles elles sont pas coordonnées à l'échelle mondiale. Il y a quand même des endroits où elles sont plutôt à vouloir restreindre, des endroits où elles sont plutôt à vouloir.
Ce qui est logique, hein. Puisqu'on n'est pas dans la même situation.
Oui, bien sûr. Mais
il y a un fossé entre les États-Unis.
Les bonnes années boursières, c'est quand même des moments où les banques centrales sont alignées. Elles ne le sont pas, et ça a des effets sur les devises. Moi, je pense que le problème actuel, c'est le problème de. Il y a des tensions sur les devises.
On l'a vu sur le yen.
Alors, imaginons que votre ami Trump, prenne le pouvoir sur une élection truquée.
Vous attaquez déjà.
Oui, voilà.
C'est rien passé, vous attaquez.
Mais ils montent des taxes et les Chinois, pour contrebalancer ça, font baisser leur devise. On pourrait avoir un joyeux bordel quand même. Voilà. Donc.
Vous avez des avis à l'Institute, vous avez un avis sur la bourse ?
Oui, évidemment.
Ah bon ?
On reste sur un marché qui est porteur, pour moi, tant qu'on a ces trois planètes qui sont alignées. Une activité économique qui tient.
Notez, voilà.
Oui, je note.
Elle tient. Une inflation, certes, elle est un peu plus persistante, mais on anticipe toujours qu'une inflation va baisser à l'horizon 2025. Et surtout, je pense, et je partage ce point de vue, le point le plus important, c'est que les anticipations de baisse de taux des banques centrales sont toujours sur la table.
D'accord.
Et pour moi, le risque sont toujours anticipés par les marchés.
Les minutes de la Fed étaient moins claires.
Les marchés, je dis pas ce que pensent certains membres du FOMC. Ah. Je dis qu'est-ce que pense le marché.
D'accord.
Et le marché est toujours dans une anticipation de baisse de taux. Après que certains membres du FOMC...
Mais ça joue quand même.
Ça joue, c'est les marchés.
Les taux des cours américains, ils ont quand même flambé depuis une semaine.
Oui, mais les marchés sont toujours dans l'anticipation que le prochain mouvement sera une baisse, que les conditions de financement aux États-Unis aujourd'hui sont restrictives. Et donc, tant qu'on a cette configuration, activité, inflation et baisse de taux, c'est positif. Le risque numéro un.
Non, c'est on n'a plus le temps.
Inflation
vous nous faites
US,
3 points, vous en rajoutez.
Non, le risque, c'est l'inflation.
On finit à chaque fois à 5 points.
Les marchés n'anticipent pas tant que ça, parce que hier, sur une séance de négative d'anticipation de hausse des taux, le marché il a perdu 600 points à Wall Street.
Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine. J'aime bien parce que Alain, c'est une rubrique Alain Pitou.
Voilà.
Chaque fois, il nous fait un petit travail qui est très sympathique. Que j'apprécie.
Alors, bon, c'est...
Voilà, et avec un petit portefeuille, voilà. Avec son petit portefeuille, avec allez-y.
Petit
Alain.
Portefeuille, liné, travailler.
On
avec...
écoute.
Alors, il se trouve que cette semaine, j'ai pas changé grand-chose. Par contre, j'avais un placement du mois, un placement pour la fin d'année. Donc, j'ai pas changé mon allocation.
Allez.
Je reste négatif. Je reste un peu prudent avec 35% d'actions, que de l'Europe et des États-Unis. Les taux, je bouge pas. Des matières premières à hauteur de 15% et le reste en liquidité avec un peu de Suisse. Et le placement du Pour la fin d'année, alors j'irai peut-être pas en sortant lundi acheter ça, mais je pense qu'il faut regarder ça cet été. C'est les placements, c'est les foncières cotées qui ont pas mal souffert, qui ont un peu remonté, mais qui recommencent un peu à être pénalisées en ce moment. Ouais, les foncières cotées. Et il y a un bon fonds chez Amundi en valeur cotée, je l'ai noté le nom, Amundi Action Immobilier. Et pour faire plaisir à Sébastien, j'ai le PE, j'ai le l'ETF qui va avec, le Lyxor PEA Immobilier Europe.
Vous allez nous l'énerver là. Ah non, il était calme.
Ah non. Je vais bien le chauffer tout à l'heure.
Vous l'avez chauffé là.
Donc les placements immobiliers. Alors encore une fois, dans ce que je disais, s'il y a un retracement, si le marché baisse cet été, ça pourrait être le genre de valeur un peu défensive, qui est sensible au taux. Donc,
vous jouez à la baisse des taux avec ça.
Ouais, mais pas tout de suite. Enfin, c'est plus tard. Mais en tout cas, et puis avec de l'actif.
Les foncières cotées. Ouais,
foncières cotées, voilà.
Soit par un fonds, soit par un ETF.
Voilà. Et j'y réponds en direct parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte pour acheter une seule foncière, donc là faudrait laisser ça.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Alain, les foncières cotées?
Nous, on n'était pas des grands fans de l'immobilier traditionnellement chez Arbevel, mais on a commencé à mettre des foncières depuis un an.
Ah d'accord.
Évidemment.
Okay.
On en a notamment une.
Non, mais vous dites évidemment.
Nous, notre métier, c'est de trouver des trucs pas chers. Donc tout le monde s'en fout, mais par moments, c'est important les trucs pas chers. Et un des trucs pas chers qu'on avait trouvé, c'était une foncière qui s'appelle Merlin Properties, par exemple, qui est une foncière espagnole de qualité, avec un très bon management. Et ils ont leur particularité, c'est qu'ils ont développé, un des premiers à développer un business de foncière de data center. Donc on en revient toujours à voilà, data, machin, Vivatech, tous ces trucs-là. Sauf pourquoi l'Espagne?
Vivatech.
Non, mais j'en parle après, mais de la tech.
Ouais.
L'impact de la tech, nous, notre métier de stock picker, c'est de voir, de constamment trouver quelle est la conséquence de. Et là, dans l'IA et dans la tech, c'est les data centers. Et les câbles transatlantiques de transfert de données arrivent en Espagne.
D'accord.
Donc l'Espagne est un pays où on a un gros développement data center et Merlin fait partie des gens qui ont créé une foncière de data center parce qu'en fait c'est quoi ? On a le terrain, on crée le truc, on le loue et on chope des loyers. C'est comme une foncière. Donc
vous avez mis ce genre de choses dans votre portefeuille.
Exactement.
C'est quoi le placement de la semaine ou du mois pour vous, Sébastien ?
Sur les small caps, je suis un peu. J'ai regardé la Valo en PE. En Europe, la valeur relative des small versus les indices large cap, on est dans le 1% tile sur 10 ans.
C'est-à-dire
que ça.
Ça n'est arrivé qu'une fois.
Une fois sur 100. Alors qu'à l'inverse, il y a des secteurs qui, eux, sont dans le 99% tile, c'est-à-dire que ça n'a jamais
été. Donc vous nous dites quoi ? Vous nous dites il faut être patient, quoi.
C'est pas qu'il faut être patient, c'est que la vraie value, elle est là, qu'à un moment. Les gens qui savent compter se disent à ce prix-là, je trouve que c'est...
Voilà, et si les gens sur la bourse ne savent pas compter,
il y a deux raisons pour lesquelles les small ont sous-performé. La hausse des taux, ça, on est à peu près d'accord pour dire qu'a priori, ça ne va pas remonter. Donc, le mouvement est enclenché depuis cette année. Et le deuxième élément, c'est qu'historiquement, on achetait de la croissance quand on achète des small. Et sur 21, 22, 23... Pour le Covid, de plein de raisons, les small, en moyenne, ont été moins bons opérationnellement que les larges. Et en 24, ça s'inverse.
D'accord. Donc, vous nous dites qu'il faut y aller, c'est le moment.
Je pense que si c'est pas maintenant, effectivement, je sais pas quand.
Allez, on passe tout de suite très rapidement, parce qu'on est très en retard, au top ou le flop de la semaine. Anna, le top ou le flop de la semaine pour vous, c'est quoi ?
En termes de news économique,
ou de personnages, personnalités ou d'institutions, non, il y a pas.
Typiquement, Sunak, parce que
Sunak pour
j'aurais
vous,
préféré qu'il organise des élections personnellement en octobre qu'en juillet. Et puis je pense,
pour vos vacances.
Exactement. C'est quand même avant les vacances.
Il a été sympa.
Après, je pense qu'il faut surtout pas oublier le fait qu'on rentre dans un mois de juin très chargé politiquement.
Le mois de juin sera chaud.
Il y a beaucoup d'élections.
Sébastien, très rapidement, parce qu'on est à la bourre.
Je parlerai plus après.
Allez.
70, 467, 59.
C'est quoi, c'est le loto ?
C'est pas les chiffres du loto, 469. C'est les flux sur les ETF. 70 milliards de flux positifs en avril. 470 milliards de flux positifs depuis le début de l'année. 59 mois consécutifs de collecte. On plaisante pas, mais c'est très important pour les marchés.
Valentine.
Top hausse des salaires sur le premier trimestre 2024 en Europe, en zone euro.
Incroyable.
plus 4,7, alors qu'on avait plus 4,5 au quatrième trimestre, alors que tout le monde s'attendait à une stabilisation ou une baisse.
Grâce à qui? Grâce à l'Allemagne.
L'Allemagne, oui, l'Allemagne.
Allez, dites-le.
Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était un gain de pouvoir d'achat extrêmement important, si on compare qu'on a une inflation qui est à 2,4. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va tenir la croissance. Voilà.
Le top 3 des gérants, Pierre Chang, 11,9%, Eric Blaine, 11,8%, Léa Dunant-Châtelet, 10,7%, et voilà, quand je vois le portefeuille de... j'en ai pour 2 heures.
Mais vous mettez, moi, c'est un vrai portefeuille.
Vous mettez une musique qui fait peur, s'il vous plaît, parce que là c'est moi qui ai peur.
Deux titres.
Alors, Selectis, on garde.
Oui.
Calray.
Oui.
Excel Technologies, l'ex-groupe Gorgé.
Oui.
Reward Media.
Oui.
Technip Energy.
Oui.
Median Technology.
Non.
On sort?
Oui.
SMCP.
On garde.
Believe, bravo.
On sort maintenant.
Ouais. Ubisoft.
On sort.
Valourec.
On garde.
Séché Environnement.
On garde.
Nexans, ça fait 43%.
On garde.
Soprasteria.
On garde.
Trigano.
On garde.
La Financière de l'Énergie.
On garde.
Befessa.
On garde.
ID Logistique.
On garde.
Alphen.
On garde.
Neoen.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
On achète une société qui s'appelle Medincell. C'est une medtech qui fait 400 millions de capitalisation boursière.
Côté où?
En France.
D'accord.
Qui est un spécialiste de la libération contrôlée de médicaments. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de faire une injection par jour, on peut faire une injection qui va vous durer un mois.
Okay.
Donc c'est extrêmement important, parce que c'est pour des maladies comme la schizophrénie ou d'autres maladies, eh ben en fait, ça, on est certain que le patient du coup prend son médicament tous les jours, ce qui est très important au niveau thérapeutique. Ce qui est important, c'est que c'est une société qui commercialise déjà, qui a 2 partenariats importants avec AbbVie et Teva, donc qui sont des gros...
Donc, ils ont du chiffre d'affaires.
Ils ont du chiffre d'affaires. C'est des gros laboratoires qui ont signé des gros partenariats. Et on est à 400 millions de capitalisation boursière. Et si les choses veulent sourire, et là, on n'est pas en bio-dollar, on est dans la réalité, c'est une société qui peut faire 400 à 500 millions de royalties à 5-6 ans.
Donc, c'est quoi, on n'est pas en bio-dollar? Je ne la connaissais pas, cette expression.
Non,
ça veut
parce
dire
que
quoi?
Vous savez, les deals biotech, il y a toujours un truc du site, je crois qu'avec AbbVie, c'est 35 millions cash. Et 1,9 milliard potentiellement si les choses se passent bien.
D'accord.
Donc c'est le 1,9 milliard.
C'est des biodollars.
Ça, c'est des biodollars. C'est-à-dire que
j'avais jamais entendu ça.
C'est pas en cash dans le bilan. Mais c'est une société qui.
Une belle pépite pour vous.
Assez excitante potentiellement.
Mais ils font du chiffre, hein, vous nous
exactement.
Confirmez.
Oui.
Allez, une musique, là, on va lui faire peur à Alain. La France vous regarde, Alain. Fortinet.
Je vends.
Et Ahmed.
Je garde.
Onto Innovation, vous avez fait 48,8%, bravo.
L'année dernière, c'était top. Je garde aussi ça.
Albemarle.
On garde.
Solar Edge.
Ça, on garde, c'est une catastrophe. Mais bon.
Valentir, vous gardez parce que c'est une catastrophe?
Non, je garde parce que ça a changé.
Vous y croyez?
Les Chinois sont en train de changer leur politique de prix sur le solaire, donc ça peut changer la donne.
Bien sûr. Palantir.
Je garde.
Republic Services.
Je garde.
Atlassian.
Je garde.
Zscaler.
Je garde aussi.
American Express.
Je garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
On achète, alors je me mets dans le médical aussi. Vertex Pharmaceutical, c'est une entreprise. On est dans le médical. Alors c'est un peu plus gros, excuse-moi, c'est une large cap à l'euro. Enfin, non, c'est pas ça, mais c'est une dollar américaine.
C'est
côté à New York.
À New York.
Voilà. Et 114 milliards de capi, des résultats en croissance. Ils sont spécialisés sur des maladies un peu rares et potentiellement mortelles ou dangereuses. Et ont un gros pipe de médicaments très investi et très développeur de stratégies pour lutter contre la mucoviscidose et contre le diabète. Donc une belle croissance, une belle visibilité, ça se paye 25 fois. Ils ont 18 milliards de trésor, donc une entreprise assez défensive dans la période actuelle. Je pense que c'est pas mal. Et mon portefeuille ne fait que 10 valeurs et j'arbitre pour rester tout le temps à 10, pour essayer d'être équilibré.
Pourquoi?
Pour essayer d'être équilibré aussi, c'est pas d'avoir un catalogue et essayer
donc
d'avoir...
Donc vous attaquez Sébastien?
Non, au contraire, non,
c'est
pas ça.
Pas
non,
avoir
non,
catalogue.
On essaie d'équilibrer le portefeuille.
Pourquoi? Donc vous critiquez la méthode de gestion
non,
de Sébastien?
Pas du tout. Non, moi je suis sur des larges caps. 10 valeurs, ça suffit pour couvrir un segment.
10 valeurs, ça suffit, nous dit Alain Pitou. Vous, cette
avec
attaque personnelle, vous la prenez comment?
Avec des larges caps, ça suffit.
Vous savez, j'ai la peau dure. Un gérant small cap depuis 5 ans, s'il a la peau dure, il n'a pas la peau dure, il est mort.
Vos 3 premières lignes, vous les avez en tête ou pas dans vos propres fonds?
Dans nos fonds, on aime beaucoup des sociétés comme Elis, comme SPI, donc des sociétés de services.
Okay.
Je parlais tout à l'heure de la foncière, la Merlin.
Ouais.
On aime beaucoup Lundin aussi. Okay. C'est une mine sur le cuivre. En fait, nous, on réfléchit beaucoup en quelles sont les thématiques structurelles du moment.
Et le cuivre, c'est évidemment...
Et le cuivre, je crois que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un potentiel à 40 000 dollars la tonne. Ouais. Là, on est à 13 000 ou quelque chose comme ça.
Alors, je vous annonce qu'on va faire une autre émission spéciale Battle Bourse contre Private Equity vendredi prochain. D'ailleurs, il y aura Sébastien Lalbé. Elle est enregistrée vendredi prochain à 15h. Pour participer à l'émission dans le public, vous avez le QR code qui apparaît sur l'écran. Sinon, vous allez sur le site BFM Business. Et si vous voulez poser des questions, parce qu'on fera une petite séance de réponse aux questions, vous envoyez un email à direct@bfmbusiness.fr, direct@bfmbusiness.fr, avec CVA en objet, et on vous répondra la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. N'oubliez pas de nous voir et de nous revoir en replay, en podcast, sur toutes les plateformes et la plateforme BFM. Regardez l'émission spéciale Battle, elle était très marrante, en Bitcoin contre or et taux contre bourse. Et à très bientôt.